Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous face. Et ce matin, des armes pour lutter efficacement contre le harcèlement scolaire. Le harcèlement à l'école, au collège, au lycée, qui se caractérise par de la violence, des agressions répétées et un isolement de la victime. Le harcèlement scolaire qui se fonderait le plus souvent sur l'apparence physique, un handicap, le sexe, l'identité de genre, l'appartenance à un groupe social, ethnique ou à des centres d'intérêt différents, avec un risque accru à la fin du primaire et au collège. Des experts aideront vos enfants et petits-enfants à répondre aux moqueries, aux violences physiques, aux insultes, aux raquettes, à ne plus être des victimes. Ils leur donneront de la confiance nécessaire pour se défendre. Et vous racontez-nous vos solutions contre le harcèlement scolaire. Appelez-nous au 01 45 24 7000 et n'hésitez pas à nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Gwenaëlle Boulet.
Bonjour.
Tous les mercredis, c'est l'heure de votre chronique « Ma vie de parent ».
Oui, bah aujourd'hui je vous avoue à quel point je ne suis pas du tout une mère raisonnable si on se met à enquiquiner mes enfants.
À tout à l'heure, bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Tu vaux rien, t'es moche, t'es grosse, on t'aime pas, tout le monde te déteste, tout le monde te hait, t'as pas compris que tu casses les couilles à tout le monde quand t'es en cours, t'es là, tu parles trop, tu poses trop de questions. J'aimerais comprendre, j'aimerais savoir qu'est-ce qui pousse des adolescentes et des adolescents à écrire et à dire ce genre de choses à une personne et à s'acharner comme ça, à s'acharner sans cesse sur la même personne.
Ryan Gontier, le frère de Dina, qui s'est donné la mort le 5 octobre dernier à l'âge de 14 ans après 2 ans de souffrance. Rappelons qu'un élève sur 10 se serait confronté au harcèlement scolaire en France. Et pour que ce type de drame n'arrive plus, nous allons essayer de vous donner des outils concrets destinés donc à vos enfants et adolescents qui subissent le harcèlement. Bonjour Tessae.
Bonjour.
Vous avez 20 ans, vous êtes chanteuse découverte par Booba et vous avez vécu le harcèlement et la phobie scolaire. Vous venez de publier Frôler les murs aux éditions La Grenade et chez Wagram Livre. Bonjour docteur Alexandre Hubert.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre, vous publiez chez Nathan Déjouer le stress à l'école avec un chapitre consacré au harcèlement scolaire. Bonjour docteur Philippe Haïm.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, psychothérapeute et vous avez publié chez Marabout Poche Aider votre enfant à se sortir du harcèlement scolaire. Et ce titre est très intéressant docteur Haïm. Vous invitez les enfants à se sortir du harcèlement en étant actifs et en ne se considérant plus comme des victimes.
Voilà, exactement. L'idée, c'est que on voit souvent les enfants harcelés comme des enfants qui vont manquer d'estime d'eux-mêmes, qui vont manquer de confiance en eux-mêmes. Et donc, mon idée était, si on veut leur redonner confiance et estime d'eux-mêmes, il faut qu'on leur apprenne à faire quelque chose par eux-mêmes. Mmh. Et donc, effectivement, se sortir d'un statut de victime qui va, bien innocemment, parfois entretenir le phénomène.
Docteur Alexandre Hubert.
Oui, tout à fait. C'est important de pouvoir justement reprendre le contrôle et ne plus être passif par rapport à ce qui arrive et essayer d'avoir des armes pour pouvoir faire face à la situation.
Tessae, vous n'avez jamais vraiment aimé l'école. Depuis que vous avez mis les pieds dans une cour de récréation, un préau ou une salle de classe, votre scolarité a toujours été douloureuse. Vous avez souffert de phobie scolaire. Vous avez connu une dépression en classe de seconde. Comment s'est installé le harcèlement scolaire dont vous avez été victime? Vous dites que dès l'école primaire, vous avez baigné dans une ambiance malsaine.
Bah c'est ça en fait. Dès l'école primaire, en fait, on m'a dépeint un portrait de moi-même qui était vu comme étant bizarre en fait, mais pas, enfin bizarre, mais du mauvais côté, vraiment comme étant un défaut, comme si en fait la personne que j'étais ne rentrait pas dans le moule et c'était pas une bonne chose quoi. J'étais trop en retard, je mettais trop longtemps à apprendre comparé aux autres. Je jouais à la poupée alors que mes amis ne jouaient pas à la poupée et je m'en foutais en fait un peu ouais de. Je vivais juste comment, de la façon que j'avais envie de vivre. Et je m'en foutais un peu de comment les autres pouvaient prendre la chose. Sauf que directement, du coup, c'est comme si on m'avait collé une étiquette dès la primaire, en me mettant justement en profil comme un enfant victime, un enfant fragile, qui va être une cible facile pour certains.
Et certains s'amusaient de votre mal-être.
Je pense, ouais. Parce que du coup, moi, j'ai jamais réalisé, en fait, du coup, que je vivais du harcèlement. C'est des médecins qui m'ont dit que je vivais du harcèlement, parce que pour moi, c'était pas possible, en fait, que du harcèlement soit des mots et surtout ouais des remarques venant de la part de personnes que je considérais comme étant des amis en fait à cette période-là. Mais du coup en fait dès qu'on se moquait de moi, ben du coup je me disais c'est normal, je le mérite, du coup je me moque de moi aussi. Donc pour le coup ben ça crée un cercle vicieux où juste c'était de la moquerie de la part des autres et même de ma propre part quoi.
Moquerie sur ce que vous étiez, moquerie également sur votre physique.
Totalement, c'est sur mon physique. Ça c'est vraiment arrivé au collège en fait parce que j'ai été vue comme étant pas assez féminine dans le sens où j'avais trop de poils d'après certaines personnes. Du coup la pilosité ça va pas avec la féminité. Je me maquillais pas. Je ne me coiffais pas non plus et j'ai mis très longtemps avant de m'habiller toute seule et quand je m'habillais toute seule ça n'avait pas de sens et du coup c'était une source de moquerie pour les autres quoi.
Quand vous étiez en troisième, des élèves de sixième se moquaient de vous, vous insultaient, tentaient de toucher vos parties intimes, de vous agresser sexuellement.
Ça arrivait fin troisième en fait. Et j'ai appris il y a pas longtemps qu'en fait les personnes qui m'ont fait ça ne me l'ont pas fait qu'à moi seulement. Il y avait une semaine où il y avait trois garçons de sixième qui m'avaient pris un peu comme comme cible à me lancer des petites remarques déplacées etc dans la cour et qui un jour sont sortis en même temps que moi de l'école et m'ont suivi, ont essayé de me mettre des mains à des parties intimes et m'ont collés contre un mur et sont frottés à moi, quoi.
Et c'est à la fin du collège que vous commencez à être cyberharcelé, hein.
Passage fin troisième et début lycée. En fait, j'avais découvert du coup les réseaux, dont Twitter, donc le réseau où on sait qu'il y a la haine gratuite qui est déversée, quoi. Et je me suis fait des amis à cette période-là qui, du jour au lendemain, en fait, se sont retournés contre moi et ont décidé, de m'insulter sans réelle raison sous mes posts. Et des comptes étaient créés pour, me dire que je devais me suicider et qu'il ne fallait pas que je rate ma tentative, quoi.
Le collège, docteur Philippe Haïm, c'est la période où un enfant est le plus susceptible de se faire harceler.
Le collège, c'est une période sensible. Hein. Je me rappelle toujours la BD de Riyad Sattouf, Retour au collège. Enfin, je sais que même quand on demande même à des personnes qui n'ont pas été harcelées, à des adultes, est-ce que vous vous rappelez quand même avoir vécu des petites moqueries, des insultes, etc. Déjà, tout le monde dit oui. Et puis souvent, c'est le collège, c'est une période sensible, c'est le début de l'adolescence. Tout le monde n'est pas au même niveau de maturité, on se cherche un peu et c'est très difficile, le collège.
Quel est le profil des victimes, si tant est qu'il existe un profil?
Alors, à mon sens,
un portrait type.
Je suis pas sûr qu'il y ait un portrait type. Bien entendu, les différences peuvent jouer dans le sens où il est plus facile d'harceler quelqu'un si on a déjà une liste d'insultes toutes prêtes, des insultes racistes, sexistes, etc., des blagues déjà toutes faites. Ça va être plus facile de le faire. Mais le, il n'y a pas de profil psychologique de la victime. En revanche, il est vrai que, avec toute la bonne volonté du monde, en essayant de se défendre, sans le savoir, sans le vouloir, et tout simplement parce qu'on ne l'a pas appris, on peut se retrouver, contre son gré, j'ai envie de dire, à jouer le rôle de la victime, comme vous disiez, de la personne fragile. Et ça, les gens qui veulent vous embêter, ça leur échappe pas. Donc je crois que si quelqu'un est embêté, c'est parce qu'il est effectivement dans une fragilité qui se voit. Et donc tout l'objectif, c'est comment ne pas être cette victime qu'on repère facilement.
Tessaé, vous confirmez ?
Je pense que ouais, surtout quand le harcèlement peut commencer à une période où même l'enfant lui-même ne se rend pas compte qu'il en est victime, du coup forcément l'image qu'il nous a donnée nous-mêmes, c'est une image de personne qui demande en fait ça. Et du coup, si ça arrive tôt et qu'on s'en rend pas compte, on va se construire dans cette image-là.
Donc voilà, c'est exactement ça. L'enfant ne s'en rend pas compte et donc il réagit naturellement. Et la difficulté, si vous voulez, c'est que quand quelqu'un nous embête, nos réactions naturelles, il nous embête pour faire quoi? Pour nous blesser, pour nous atteindre. Et nos réactions naturelles, c'est quoi? C'est de lui dire d'arrêter, c'est de le dénoncer, c'est de contre-attaquer, c'est d'essayer de l'ignorer. Dans tous ces cas, vous avez quand même montré que vous étiez atteint. Donc quelque part, l'agresseur est récompensé. C'est ce qu'il voulait. Il voulait vous toucher. Et vous lui dites arrête. Vous lui dites je vais te dénoncer. Vous lui dites et toi, t'as pas vu ta gueule. Ou vous lui dites mais dans tous les cas, il se dit ça t'embête, hein, ça t'embête, je vais continuer.
Quel est le cœur de votre méthode, justement, Philippe Haïm? On va y revenir largement tout au long de cette heure.
Alors, le cœur de ma méthode, c'était de me dire comment je peux faire pour aider l'enfant à montrer activement qu'il n'est pas atteint pour ne pas être une victime intéressante, sans avoir à se réfugier derrière des adultes, parce que les enfants ont très peur des représailles, donc ils ont peur de nous en parler, ils ont peur, et souvent c'est le cas, que ça aggrave leur impuissance ou que ça confirme au harceleur qu'il est bien sur la bonne cible. Ils aimeraient apprendre à faire quelque chose par eux-mêmes sans pour autant devenir agresseur. Donc le cœur de la méthode, c'est de se dire que les relations sont un jeu, sont un jeu psychologique et qu'on peut pas gagner quand on connaît pas les règles. Quand on apprend les règles, on peut arriver à désamorcer, j'emploie beaucoup ce mot, ou à pacifier, comme on veut. Comment on fait pour désamorcer l'agressivité de l'autre sans avoir à l'agresser à notre tour ou à le dénoncer. Et donc, on va l'apprendre en jouant à un jeu, parce que les enfants apprennent bien par le jeu. Et donc, ça va consister, ce que j'explique longuement, que j'apprends longuement, c'est un jeu de rôle assez structuré qui va apprendre à l'enfant, au fur et à mesure qu'on joue, les attitudes qui marchent ou qui marchent pas pour apaiser l'agressivité.
On va jouer. Si on se met dans la peau du harcelé et du harceleur, je suis le harceleur, je vous dis, t'es con.
Alors, est-ce que vous m'autorisez à ce qu'on joue deux fois,
oui,
rapidement?
Oui, bien sûr.
Donc, je vais jouer une première fois avec l'enfant et vous allez me dire, t'es con. Moi, je vais vous dire, mais arrête de me dire ça, c'est pas gentil. Là, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire si je vous dis, mais arrête, t'es pas gentil, arrête de me dire que je suis con. Vous avez qu'une envie, c'est de recommencer, mais en fait, parce que ça marche. Et donc, je vais jouer à l'enfant une première fois comme ça. Et en fait, le but du jeu, bien sûr, c'est que j'arrive à vous arrêter. Mais recommencez pour voir, réinsultez-moi.
T'es con.
Ah, tu trouves?
Bah oui.
Ok, il y a des gens qui pensent ça de moi, c'est vrai. Il y en a d'autres qui pensent le contraire. Mais par contre, toi, je te trouve vachement intelligent.
Alors là, je suis désarçonné, si vous me dites ça.
Alors voilà, donc évidemment, c'est très résumé, ça rend pas justice à l'ensemble de la chose, mais effectivement, l'idée est ça. La chose la plus déstabilisante au début du harcèlement, et je parle bien de harcèlement, d'harcèlement verbal, je parle pas d'agression sexuelle et de violence physique qui sont d'autres catégories. Le harcèlement, 95% du temps, c'est verbal. Quelle est la chose qu'on nous apprend pas à faire, c'est normal, c'est pas intuitif, et qui peut déstabiliser le plus un agresseur? Bah, c'est de faire ça au fond. C'est de me dire, j'aurais envie qu'il arrête de parler. Mais en fait, si je me dis, il a le droit de le penser.
Bien sûr.
Et donc, si je lui dis activement, t'as le droit de penser ça, en fait, mais c'est pas du tout drôle de m'embêter. Je lui montre pas que je suis atteint, mais je lui montre activement. Faut pas dire aux gens d'ignorer. Si vous dites aux gens, ignore-les, on sait bien que ignorer, c'est une forme de contre-attaque. C'est pas gentil d'ignorer quelqu'un. Donc, si je lui dis, ah bon, tu trouves, ok, c'est ce que tu penses. Et c'est d'accord pour moi. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans les interviews qu'a donné Tessae et que j'ai écouté avec attention, c'est justement qu'à un moment donné, ce qui l'a aussi aidé à s'en sortir, c'est de dire, ok, vous pensez que je suis différente? Ok, vous pensez que je suis pas comme vous? Eh ben, c'est d'accord. Et à partir de là, elle est invulnérable. Et si aujourd'hui, avec cette confiance qu'elle a pris en elle, on lui disait, mais t'es différente, t'es pas pareil, tu t'es vue, dire, ben, ok. Voilà. Et c'est ça qui fonctionne. Sauf qu'on oublie de nous l'apprendre quand on est enfant. Si on lui avait appris, est-ce que ça aurait été différent? Je sais pas, hein.
T'es ça y est.
Je suis totalement d'accord. Aujourd'hui, j'ai fait de ma différence, ma force, quoi. Je vois plus ça comme un défaut.
Docteur Alexandre Hubert, votre regard sur cette méthode?
Tout à fait, non, moi je suis complètement d'accord. Effectivement, je pense que c'est important de pouvoir donner des outils à la personne qui a harcelé. Après, il y a d'autres niveaux sur lesquels on peut aussi intervenir. Ça va être aider les parents, puisque souvent les parents, ils vont réagir de manière très viscérale et intuitive en voulant tout de suite résoudre le problème à la place de l'enfant. Or, l'idée, c'est vraiment d'accompagner l'enfant pour que ce soit lui qui puisse être le maître de la situation. On peut aussi aider les autres élèves, c'est-à-dire que je pense que c'est important de dire aux autres élèves c'est quoi le harcèlement et comment est-ce qu'on peut réagir pour pouvoir aider une personne qui est en difficulté. Et puis après, il y a l'école en tant que telle. De même que s'il y a du harcèlement au travail, ça va être l'entreprise qui va être impliquée et il va y avoir des choses qui vont être mises en place par l'entreprise. C'est le même principe, c'est-à-dire qu'au niveau de l'école, il peut aussi y avoir des réflexions sur comment prévenir tout ce qu'est le harcèlement et comment modifier les choses de manière justement à pas être dans cette situation.
Comment repérer les signes évocateurs du harcèlement scolaire, docteur Hubert?
Ça va être principalement tout ce qui va être le changement dans l'attitude de l'enfant, c'est-à-dire une rupture avec l'état antérieur, s'il a tendance à s'isoler, s'il est plus triste, différentes choses qu'on va retrouver. Après, ça va être variable, évidemment, en fonction de chaque enfant, mais le plus souvent, les parents perçoivent très bien le moment où il y a un changement. Toute la difficulté qu'il va y avoir, c'est d'amener l'enfant à être suffisamment sécure pour pouvoir en parler, puisque souvent, il a peur, en tout cas, d'en parler à ses parents.
Tessae, qui avait repéré dans votre entourage, dans votre famille, à l'école, que vous étiez harcelé?
En fait, on l'a jamais vraiment remarqué en soi parce que du coup, pour moi, je l'étais pas, donc j'en parlais pas forcément. Et je vivais un peu la chose d'une manière détachée. C'est plus tard où j'ai senti les séquelles en fait de ce que j'avais pu vivre. Mais sur le coup, personne l'a vraiment vu. C'est quand mon corps a lui-même montré qu'il y avait un problème qu'on s'est dit là, il y a eu un souci quelque part.
Gonelle Boulet.
Ouais, je trouve que dans tout ce que j'entends, on sent qu'il y a vraiment un travail hyper collectif à faire, c'est-à-dire qu'il y a l'enfant harcelé. Quid, moi j'aimerais bien savoir s'il y a des profils de harceleurs, par exemple, qui je pense répondent à, à quelque chose pour avoir envie de d'enfoncer, de titiller, de voir jusqu'où va la souffrance de l'autre. Je sais pas ce qui se joue chez le harceleur. Il y a surtout toute cette masse d'enfants qui voient des choses se passer, qui ne savent pas agir, qu'on appelle peut-être les témoins.
On les appelle aussi les spectateurs. Voilà, oui. Ils sont spectateurs et quelque part acteurs passifs de ce qui se passe.
Ça, moi, j'ai beaucoup dans les enfants beaucoup qui ils voient qu'il se passe des choses. Il y en a un qui se fait harceler, mais bon, finalement, on a tellement pas envie de mettre le doigt dedans qu'on n'agit pas. Donc, on sent que tout ça et que c'est pas toujours pris en main par l'institution scolaire non plus.
Docteur Haïm.
Alors, sur les profils de harceleurs, je ne suis pas sûr non plus qu'il y ait un profil de harceleur, et je pense que stigmatiser les harceleurs, qui sont aussi des enfants, comporte un danger. C'est-à-dire que stigmatiser les harceleurs, ça voudrait dire d'imaginer que les harceleurs sont des espèces de pervers qui jouissent de faire du mal aux autres. Bon, ça existe, mais c'est rarissime. Ce qui est par contre très fréquent, c'est des enfants, des ados qui maîtrisent pas bien leur communication, qui se rendent pas compte des effets de leurs mots parce qu'ils ne l'ont pas appris, parce qu'ils ne le voient pas, et parce qu'en face, ils ont des personnes qui savent pas forcément s'en défendre. Donc faut faire attention à la stigmatisation, elle ne nous aidera pas. Par contre, qu'est-ce qui fait qu'on continue à harceler? Bah, effectivement, comme je le disais, c'est parce que ça marche. On a un peu nerveusement, mais tous rigoler de quelqu'un qui glisse sur une peau de banane ou qui bafouille pendant un bêtisier. Et donc, il y a aussi le fait que dans une cour d'école, il y a des jeux collectifs qui se jouent, il y a un enjeu à être un peu le mâle ou la femelle alpha, et donc, ben, du coup, pour que quelqu'un soit un peu dominant, ben, il faut qu'il ait quelqu'un à dominer.
Bonjour Milo. Bonjour Milo.
Bonjour.
J'ai le droit de te tutoyer ?
Oui.
Bon, mais très bien, ça m'arrange. Tu as 6 ans et tu voulais témoigner ce matin. Nous t'écoutons avec beaucoup d'attention, Milo.
Oui.
Tu es harcelée à l'école, c'est ça?
Non, c'est juste on travaille sur l'harcèlement scolaire.
D'accord, bah, explique-moi comment ça se passe. Tiens, raconte-nous un petit peu comment l'école a mis en place des ateliers contre le harcèlement scolaire.
Ben, en fait, il y a le maître, il nous donnait des fiches où il y avait des écritures où c'était fallait deviner si c'était du harcèlement ou si c'était pas du harcèlement.
D'accord. Tu as des exemples en tête ou pas? Est-ce que...
Oui.
Vas-y, dis-moi, explique-nous un petit peu.
Attends, des écrans, t'as dit ?
Des exemples.
C'est le papa qui est à côté. Vous pouvez intervenir, hein, monsieur le papa, si vous voulez aider Milo. Vous êtes avec nous ?
Oui.
Le père de Milo, est-ce que vous pouvez expliquer ?
C'est pas mon père, c'est ma mère.
Ah, c'est votre mère, pardon. Pardon, Milo, je suis désolé.
Faut qu'il m'aide. Oui.
Oui, des exemples, n'hésitez pas. En tout cas, Milo, est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ces ateliers, est-ce que ça t'a aidé à te rendre compte du harcèlement? Est-ce que ça a été utile, ces ateliers?
Oui.
Ouais. D'accord. Docteur Haïm, vous avez peut-être une question ou une réflexion pour Milo? Sa première radio ce matin.
Ouais, c'est, bravo. Hein. Non, on peut se demander est-ce que ça aide à savoir ce qui est du harcèlement, ou est-ce que ça aide à savoir qu'est-ce qu'il faut faire si on nous dit ça. Voilà. Moi, c'est plus la question qui m'intéresse. Ouais. Et donc, du coup, on voit bien. Et encore une fois, c'est parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Mais c'est très intéressant d'expliquer aux enfants. Est-ce qu'à un moment c'est harcelant ou ça l'est pas? Est-ce que c'est blessant ou ça l'est pas? C'est vrai qu'il faut, il nous faut l'apprendre. Enfin, à la fois, au bout d'un moment, on finit par le savoir. Et je pense que beaucoup d'harceleurs, au bout d'un moment, savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Et qu'on aura beau faire des ateliers où on dira ah, « Tu sais que ça, c'est méchant de dire ça. » Oui, ben, je le sais. Et voilà. Et je trouve que c'est un pan qui manque. C'est-à-dire que l'éducation nationale, etc., ne fait pas rien. Hein, on apprend à dénoncer, repérer les faits, à protéger les victimes, comme on peut, parce qu'après, ça continue en dehors des murs et sur les réseaux. On apprend à savoir quelles sanctions appliquer... aux agresseurs, comment impliquer les parents, etc. Mais il y a un pan qui manque pour moi, et c'est tout mon propos, c'est tout le pan d'éducation aux relations sociales. L'école, c'est l'endroit où on apprend les relations aux autres, et on n'a jamais un cours là-dessus. Il y a des choses pourtant qui devraient s'apprendre sur comment on gère... Moi, j'ai oublié beaucoup de choses que j'ai fait au lycée, hein. Je m'en sers pas au quotidien. Par contre, j'ai pas oublié ce qui m'est arrivé relationnellement. C'est les premières amours, les premières amitiés, les premières trahisons, les premières agressivités. Et toute notre vie, on aura des gens qui nous agressent un jour ou l'autre. Et donc, j'aimerais bien qu'on apprenne ça aussi aux enfants.
En tout cas, Milo semble très conscient de ce qu'est le harcèlement scolaire. Merci, Milo, de nous avoir appelé en ce mercredi. Gwenaëlle Boulet.
Oui, dans ce qui est mis en place dans les écoles, par exemple, il y a tout ce qui est autour du message clair, qui, moi, je trouve que j'ai vu fonctionner, y compris dans des quartiers extrêmement difficiles. Je me souviens au nord de Marseille, où une école entière avait mis en place ce qu'on appelle les messages clairs. C'est-à-dire que les enfants apprennent à communiquer de manière non violente avec des messages très clairs. Tu m'as embêté, ça m'a embêté ce que tu as fait, est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Et donc la réception aussi de la parole de l'autre, l'empathie qui est mise au cœur, puisque quand on harcèle quelqu'un, ce qui manque c'est l'empathie, c'est de se mettre à sa place. Et ça, j'ai trouvé qu'il y a des outils maintenant qui existent, qui sont quand même mis à la disposition des établissements et qui sont peut-être trop peu encore utilisés, ou alors des fois dans une classe, mais pas dans une école entière, ce qui est dommage.
Allez, dans quelques instants, des outils pour aider les enfants et les adolescents à faire face au harcèlement. En attendant, on écoute The Mamas and the Papas. Vous n'étiez pas né, Gwenaëlle Boulet?
Non.
California Dreaming. The Mamas and the Papas, California Dreaming.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
10h30 et ce matin, des outils concrets pour aider vos enfants à sortir du harcèlement scolaire. 01 45 24 7000, sans oublier de nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter. Écoutons Antoine, élève en CM1, c'était en 2019 sur Brut.
Il y a des élèves, ils me suivent partout, ils m'insultent, ils m'embêtent, ils me tapent.
Antoine est en CM1 dans une école près de Lyon. Il a accepté de me raconter son calvaire quotidien. Depuis septembre, il est harcelé par d'autres élèves.
Ils se moquent de moi. La dernière fois, ils m'ont baissé mon pantalon, après ils m'ont jeté des cailloux.
Tu leur racontes aux adultes ce qui t'arrive?
Oui.
Ils te disent quoi?
La dernière fois, quand on m'a acheté des cailloux, il a rigolé.
Qui a rigolé?
Un animateur, un adulte. Et moi, j'y arriverai pas jusqu'à la fin de l'année. Heureusement que je vais changer d'école, mais si je devais rester jusqu'à la fin de l'année, je tiendrai pas.
Antoine et sa maman ont porté plainte. Ils devraient changer d'établissement d'ici quelques jours.
Antoine, élève en CM1, c'était en 2019 sur Brut. Qu'est-ce que ça vous inspire, Tessa? Je rappelle que vous êtes chanteuse et que vous publiez Frôler les murs.
C'est horrible. C'est un tout petit garçon quoi qui explique justement, il va voir un adulte pour parler de ses problèmes et on se rend compte qu'en fait il est pas du tout pris au sérieux quoi. Au contraire, il reçoit de la moquerie de la part d'un adulte. Donc c'est horrible. Et du coup, c'est là qu'on se rend compte que justement il faut en parler autour, mais il faut qu'il y ait un accompagnement qui soit fait derrière. En fait, sinon ça mène à rien.
Docteur Philippe Haïm, psychiatre.
C'est terrible. Enfin, je veux dire, en plus, au-delà du côté psychiatre ou thérapeute, il y a le côté être humain. Quelqu'un m'avait fait remarquer, j'avais même pas fait attention, mais la première phrase de mon bouquin, c'est quand je vois un enfant qui souffre, je suis bouleversé. Moi, ça me tue, ce genre de témoignage, c'est affreux. Alors après, si on essaye de sortir de l'émotion pour essayer d'y réfléchir, effectivement, je pense que c'est intéressant que les adultes sachent accueillir le message et qu'ils aient quelque chose de cohérent à répondre aux enfants. Donc, les enfants ont du mal à en parler parce qu'ils ont honte de ce qui leur arrive. Ils ont du mal à en parler parce qu'ils ont un peu peur qu'on intervienne à leur place et qu'on suscite des représailles. Mais ça reste important qu'on l'entende, justement pour faire la différence entre ce qui nous arrive, ce que j'appelle les dégâts objectifs et subjectifs. C'est-à-dire que si, effectivement, objectivement, un enfant est victime de coups et blessures, violences sexuelles, etc., là, par contre, l'idée de dénoncer, protéger, sanctionner s'applique évidemment. Il n'y a aucun doute sur la question. Et donc là, on va lui dire, écoute, là, il faut que j'intervienne à ta place. Et même si tu n'es pas d'accord, là, ma mission d'adulte, c'est de te protéger. En revanche, s'il s'agit d'insultes, de moqueries, etc., souvent, la question de l'enfant, c'est qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et donc, je trouve intéressant si l'adulte en face peut lui dire, ok, ça a l'air de te faire mal. Est-ce que tu veux qu'on réfléchisse à ce que tu pourrais faire face aux gens qui t'insultent et qui t'embêtent? Voilà.
Une règle essentielle que j'ai tirée de votre livre, Philippe Haïm, aider votre enfant à se sortir du harcèlement scolaire, c'est la réciprocité. On l'a un peu évoqué tout à l'heure. L'idée, c'est de traiter nos ennemis en amis. Mais comment traiter gentiment quelqu'un qui me traite méchamment? Donnez-nous des armes et des exemples concrets.
Ok, alors, je précise qu'il ne s'agit pas de devenir ami avec des méchants, mais d'être amical, pour que ce soit déstabilisant, ce qui n'est pas pareil. La réciprocité, c'est ce qui fait que spontanément, si vous entrez en relation avec moi comme un ennemi, je vais réagir comme un ennemi. Et comme je le disais tout à l'heure, me plaindre, dénoncer, contre-attaquer, c'est réagir en ennemi. Donc l'agresseur se dit, ok, c'est bien mon ennemi, je recommence. Il a une sorte de récompense à son comportement. Qu'est-ce qui le déstabilise? C'est si, malgré le fait qu'il s'approche de moi en ennemi, je le traite en ami, ce qu'on appelle la règle d'or. Là, il va se passer un espèce de combat dans sa tête, puisque tout en lui, c'est une règle psychologique de base, c'est un réflexe, tout en lui va dire, mais c'est dur de continuer à être méchant puisqu'il est sympa. C'est dur de se réfréner d'être sympa avec quelqu'un de sympa. Ça peut même être caricatural quand on l'apprend à des enfants tout petits, on leur apprend pas toutes les subtilités. Mais par exemple, moi, ma fille qui a 5 ans, si vous lui dites « t'es moche », elle va vous regarder, elle va dire « mais toi, t'es beau ». Et ça déstabilise. Et donc, quand il s'agit d'harcèlement verbal, quelle est la victime la moins intéressante, finalement, à continuer d'embêter? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? C'est qui fait la dernière chose à laquelle je m'attends. T'es moche, ta photo Insta, c'est horrible, t'as l'air d'un canard dessus.
Qu'est-ce qu'on répond?
Ah bah, dis donc, toi, la tienne, elle est super stylée, par contre. J'adore.
Ça déstabilise. Hein.
Ouais, c'est sûr, ma photo, elle est pas terrible. Je sais pas, le flash, il marchait pas. C'est très déstabilisant. Si je fais, alors sans se moquer justement, sans être ironique à mon tour, si je fais un compliment à quelqu'un qui m'insulte, si je lui pose une question comme si ce qu'il me disait est un truc intéressant, qu'il a le droit de penser. Ça veut pas dire que je suis d'accord. Ça veut dire qu'il a le droit de le dire.
Exemple.
Eh ben, exemple, t'es moche, tu crois? Ou ta mère, c'est je ne sais quoi, tu crois vraiment ça de moi? Ou tu devrais te suicider, mais t'es fâché contre moi au point que tu penses que je devrais mourir? Ah, je sers à rien d'après toi. Ok.
L'idée, c'est de retourner la situation en posant des questions.
Ouais, par exemple, poser des questions, ça indique qu'il a le droit de le dire. Parce que, en fait, qu'est-ce que s'attend l'agresseur? L'agresseur, il s'attend à ce qu'on essaye de l'empêcher de parler. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu devrais pas me dire ça. Si je vous dis ça, vous allez me dire, ah ouais? Je vais me gêner pour le répéter. C'est toujours ça qui se passe, en fait, finalement. Mais si je dis, s'il y a une rumeur sur moi, il paraît que t'as fait ça, il paraît, je sais pas, chez les enfants, il paraît que t'as fait pipi au lit, il paraît que t'as embrassé machin. Et tu le crois? Ouais, je le crois. Tu peux le croire si tu veux. Il y a rien que je peux faire pour t'empêcher de le croire. Si t'as envie de le croire, tu peux le croire. T'es gros, t'as grossi. Tu trouves que j'ai trop de... Tes vêtements, ils sont moches. Moi, j'ai des meilleurs vêtements que toi. T'as de la chance, t'as des beaux vêtements. Tu trouves qu'ils sont pas terribles? Ok. D'ailleurs, je trouve que votre coupe de cheveux, Ali, est pas terrible.
Ouais. Il n'y en a plus beaucoup, hein, vous savez. Docteur Alexandre Hubert, vous sembliez approuver ce que disait votre confrère.
Bah, tout à fait. C'est important, effectivement, de pouvoir apprendre des compétences à l'enfant et de lui donner des armes. Après, c'est aussi, je pense, important en tant qu'adulte et que ce soit en tant que parent ou à l'école, aussi de promouvoir les bons comportements. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à dire, par exemple, il faut pas rapporter. Donc ça, ça va être vu comme un comportement négatif. Alors que si un de tes camarades est en difficulté, c'est important d'aller chercher de l'aide. Ça, c'est quelque chose de positif. Et ça me semble important de le promouvoir en tant qu'adulte, que ce soit au sein de l'école ou dans la famille.
Essaye.
Ouais, voilà. Après, enfin, cette technique, je la trouve super intéressante et j'avais jamais vu le problème sous cet œil-là. Mais je pense aussi qu'il y a le truc où il faut quand même pas. Enfin, je pense que beaucoup pourraient se dire, bah du coup, ça veut dire qu'il faut laisser passer ce qu'on voit parce que c'est toujours le problème de l'autre. Il faut pas que je rentre dedans. Alors oui, pour le coup, c'est. Enfin, je trouve que ça serait plus intéressant et peut-être plus efficace si c'est l'enfant lui-même qui arrive à se défendre. Mais des fois, du coup, on peut se retrouver avec un enfant qui va avoir trop de mal et quand même ne pas se dire, bah, je vais le laisser tout seul dans son problème, quoi.
C'est intéressant ce que dit Tessaé. Comment faire si on est timide, introverti, qu'on n'a pas le répondant de Jamel Debbouze? Ce que vous racontez, votre technique, je la trouve absolument formidable. Mais si on est un peu timide, un peu renfermé, si on est...
Alors, il y a deux choses dans ce que dit Tessaé. Il y a d'un côté l'aspect des témoins, c'est-à-dire, je vois un enfant faire ça et je vais me dire que c'est juste son problème à lui. Alors non, c'est pas juste son problème à lui, parce que moi, ce que je vois, c'est que les enfants que j'ai aidés à apprendre ce genre de technique, ils vont les apprendre à leurs copains. Ils vont me dire, hey, j'ai vu qu'il t'embête, moi, on m'a appris un truc, viens, je t'explique. Voilà. Et ça, c'est des fois intéressant. Ou des fois, ils vont même intervenir à la place de l'autre. J'ai déjà vu des enfants, on leur dit, ah bah, t'es moche et t'es mal habillé. Et c'est l'autre, le témoin, parce qu'il connaît les techniques, il s'approche, il dit, mais tu trouves qu'il est mal habillé? Ah, c'est marrant, moi je trouvais que ma chemise était encore pire que la sienne. Et du coup, c'est-à-dire qu'on peut quand même aider, c'est pas une technique qui désolidarise les gens les uns des autres. La deuxième chose qu'on me pose souvent, c'est effectivement, ah mais quand même, ça nécessite des enfants qui ont une confiance en eux, qui ont une certaine estime d'eux-mêmes. Alors, déjà, quand on leur apprend que c'est un jeu, et que... Le jeu de l'idiot, et qu'il est impossible, ça vous pouvez demander à tous les enfants, est-ce que tu crois qu'on peut gagner un jeu sans connaître les règles? Ben non. Et est-ce que tu crois que t'es pas en train de perdre à ce jeu parce que tu sais pas comment ça marche? Mais si on leur apprend comment ça marche, ils se sentent pas de pression à avoir confiance en eux. Ils se disent, ok, j'ai compris la règle. Et puis il y a une chose assez marrante qui se passe, c'est que moi, je prétends pas leur apprendre la confiance en soi. Je prétends leur apprendre un jeu relationnel et un jeu de communication. Et en fait, j'ai même pas à me soucier de cette histoire de confiance en soi parce que quand ils y arrivent, alors au début c'est difficile, je dis pas le contraire. Mais c'est simple sur le principe. Donc ils peuvent l'apprendre facilement. C'est plus facile à apprendre que des contre-attaques. Et quand ils le font, et que ne serait-ce qu'une fois, ils voient que ça marche, là ils prennent confiance. Et donc des fois le comportement précède l'état d'esprit.
Rappelez le principe fondamental de ce jeu de l'idiot, vous l'appelez comme ça dans votre livre.
Alors, le principe fondamental dans l'application, c'est qu'effectivement on doit l'apprendre à l'enfant avec des jeux de rôle. Oui. On doit le jouer avec lui. S'il n'apprend, un enfant n'aime pas qu'on lui donne des leçons et qu'on lui fasse des explications. Ce que je dis aujourd'hui, par exemple, s'adresse plus à des adultes pour qu'ils comprennent les règles du jeu. Mais l'enfant, quand vous lui apprenez à jouer à un jeu de société, vous faites une partie pour de faux pour qu'il comprenne les règles. Donc, le truc important, c'est de jouer le jeu de rôle. C'est pour ça que il y a toute une méthode et qu'il faut l'apprendre. Mais ça fonctionne. Ça, c'est pour l'apprendre à l'enfant. Et après, les règles essentielles, on les a un petit peu données tout à l'heure. Il y a cette histoire de règle d'or, de rester sympa si on me dit un truc méchant pour déstabiliser l'autre, pas parce qu'on a envie d'être sympa. L'idée d'une forme de liberté d'expression. La liberté d'expression va jusqu'à l'avis que vous avez sur moi. Vous pouvez avoir un avis différent, je ne sais pas, moi, l'année prochaine pour les élections, sur la France. Vous pouvez avoir un avis différent sur moi. La liberté d'expression, ça compte. Et l'idée que j'ai pas de télécommande jusqu'au cerveau de l'autre pour lui imposer sa pensée. Si après tout, il a envie de penser ça sur moi et que je lui dis « ben d'accord », eh ben il va s'arrêter.
Mais ça s'arrête, cette liberté d'expression, jusqu'au franchissement de la loi. Par exemple, en cas d'insultes racistes, homophobes, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là justement?
Alors, ce qui est important, pour moi, la loi dit les choses très bien, elle parle d'incitation à la haine raciale. Donc il est évident que si quelqu'un tient un propos raciste à la radio, à la télé, etc., et que, bien évidemment, la loi s'applique. Maintenant, soyons concrets, si vous êtes dans une cour d'école, dans un coin, il n'y a pas de témoin, et que quelqu'un tient un propos raciste, si je me contente de lui dire « la loi est avec moi », ça va pas marcher. Donc, ok, c'est un pis-aller. Moi, j'aimerais bien aussi qu'il y ait une société sans racisme et où tous les racistes soient, voilà, qu'on puisse les réduire au silence. Mais c'est les mêmes techniques vont s'appliquer parce que je suis dans une situation relationnelle et pas juste légal. Par contre, là où la loi va s'appliquer fortement, c'est effectivement quand ça devient objectif. Si on me menace avec une arme, si on me touche sexuellement, etc. Là, évidemment, là, c'est objectif. Mais je crois que quand on est seul dans un coin, il faut réagir relationnellement, dire « Ah, la loi est contre toi !» Ça peut aggraver les choses.
5 questions essentielles que les parents, grands-parents et autres membres de la famille peuvent poser à un enfant qui se fait harceler. Raconte-moi ce qui te blesse, t'énerve, te saoule en ce moment. Comment font-ils pour s'y prendre? Pourquoi font-ils ça, à ton avis? Qu'est-ce que tu as essayé de faire pour les arrêter? Et puis, tu veux qu'ils arrêtent. Ça, c'est des questions très important.
Pour moi, c'est les questions que je pose au début. C'est-à-dire, ça me permet de savoir qu'est-ce qui est en train de se passer exactement. Si l'enfant me parle d'agression physique, etc., tout de suite, je change de registre. Ça me permet de savoir comment il réagit. C'est-à-dire, comment, avec, comme je disais tout à l'heure, avec la meilleure volonté du monde, il s'est quand même positionné comme quelqu'un d'intéressant à embêter. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi ils font ça, à ton avis? Parce qu'ils sont méchants. Alors, parce qu'ils sont méchants, mais ils sont méchants avec toi, en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Et puis, tu veux qu'ils arrêtent? Ça, c'est la question que je pose parce que j'ai une idée derrière la tête et que j'ai une idée de quelque chose à lui apprendre, oui.
Docteur Alexandre Hubert, beaucoup de questions qui vont dans le même sens, comme celle d'Amandine. Mon fils a été harcelé au CE1, du CE1 au CM2. Moqueries, insultes, coups ont été son quotidien. J'ai rencontré des instituteurs en alertant sur sa situation pendant 3 ans, signalé ses violences sur le numéro vert disponible, contacté l'inspection académique. Personne n'a pris de mesures pour soutenir mon enfant. Nous n'avons reçu aucun soutien de la part de personne. Comment contraindre les établissements qui ont la responsabilité de nos enfants à réagir sans être obligé de passer par la menace d'une plainte? Il y a beaucoup de questions qui vont dans ce sens-là.
Bah dans tous les cas, je pense que c'est toujours important de pouvoir maintenir un dialogue, donc dans un premier temps évidemment avec l'enfant, mais aussi avec l'établissement, en sachant qu'il existe des ressources au niveau de l'éducation nationale. Il y a notamment un guide de justice scolaire qui est un document qui a été fait par l'éducation nationale, qui fait plus de 100 pages, avec beaucoup d'outils à disposition des établissements. Après, toute la difficulté, je pense, c'est que l'ensemble des institutions soient au courant de ces outils et soient en mesure de les utiliser. Parce que je pense qu'une autre difficulté que peuvent parfois rencontrer les écoles, c'est s'ils sont en sous-effectif ou s'ils sont en difficulté au sein de l'établissement, il peut y avoir plus de dysfonctionnement.
Tessaé, est-ce que quand vous étiez harcelé au collège, est-ce que l'établissement scolaire, les professeurs, le CPE vous ont aidé, ont vu des choses, ont alerté vos parents ou alors c'est passé sous les radars?
Oh, c'est passé sous les radars. C'est vraiment passé sous les radars parce que du coup, même si au collège, c'est là où j'ai commencé à faire ma phobie scolaire, du coup, on ne s'est jamais vraiment posé la question, en fait, je pense, d'où ça vient. C'est juste, on s'est dit, cet enfant est trop angoissé. Du coup, elle réagit comme ça en cours. Et c'est tout. Il y avait évidemment des profs qui venaient me demander ce qui se passait parce que du coup, on me voyait ne plus être en cours, on me voyait quitter les classes, etc. Donc, évidemment, qu'il y avait certains adultes qui étaient. Qui voulait rentrer dans le problème, entre guillemets, essayer de comprendre ce qui se passait. Mais généralement, ceux plus haut ne cherchaient pas vraiment à comprendre le problème, quoi.
Philippe Haïm ?
Parfois, les établissements sont réellement intervenus. Et pourtant, ça n'a pas toujours arrêté les choses. Et je pense, toutes les histoires qu'on entend... Alors, il y a eu la petite Dina, mais avant ça, il y avait eu Marjorie. Avant ça, c'est régulièrement, on a des titres comme ça d'enfants qui ont été blessés ou tués. À chaque fois, on voit que les établissements sont intervenus et que ça n'a pas suffi. Et donc, j'entends bien que c'est absolument terrible à constater. Alors, ça passe sous les radars, souvent parce que l'enfant ne s'en rend pas compte ou a honte. Des fois, il y a des interventions de l'établissement qui ne fonctionnent pas parce que encore une fois, avec la meilleure volonté du monde, parfois on n'est pas dans le... Là, il y a une loi qui va être examinée bientôt, dont, si j'ai bien compris, le seul objectif est de renforcer les sanctions contre les agresseurs. Et c'est tout. J'ai envie de dire, comme dans la pub, what did you expect? Je veux dire, qu'est-ce qui va se passer juste? On va renforcer les sanctions. Eh bien, on va avoir des agressés qui vont se retrouver, des agresseurs, pardon, qui vont se retrouver sanctionnés dès les premiers signaux faibles, plus fortement. Certains, parfois ça va marcher, parfois même contre-attaquer ça marche, parfois dénoncer ça marche, chez des petits harceleurs qui ont peur de la sanction ou qui ont peur de dire à leurs parents qu'ils ont eu un renvoi ou des heures de colle. Mais c'est une partie. Et les autres, ça va faire quoi? Tu m'as dénoncé? Tu vas voir. Et est-ce qu'on croit vraiment qu'en faisant ça, on va pousser les agresseurs à dire... avoir confiance dans les adultes, avoir confiance dans l'autorité qui les a punis, dire « Ah oh bah oui, vous avez raison, maintenant que vous m'avez puni, j'ai tellement envie de respecter les règles et d'aimer ma victime. » Non, je veux dire, c'est notoirement insuffisant et il manque toute une partie relationnelle et groupale, d'ailleurs, pour le harcèlement groupal, de compréhension du phénomène. C'est faire l'impasse sur beaucoup de choses, uniquement centré sur la sanction, même si, en tant que parent, je comprends, moi, en tant que parent, la première idée qui me vient, si on touche à mes gosses, attends, tu vas voir ce que tu vas voir. Mais c'est pas constructif, voilà.
Et dans quelques instants, d'autres outils contre le harcèlement scolaire. Il est temps de retrouver Ma vie de parent de Gonaïd Boulet.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas?
Salut! Merde!
Alors, dans la foulée de ce que vient de nous dire le docteur Philippe Haïm, Gwenaël Boulet, il paraît que vous perdez tout sens commun si on enquiquine vos enfants.
Hein. Oui, oui. Bah, on va pas se mentir, dans la vie, il y a la théorie et puis la réalité. Il y a ce qu'on devrait faire et ce que l'on fait vraiment. Et en ce qui concerne le harcèlement, j'avoue qu'en tant que maman, je suis un tout petit peu schizophrène.
C'est-à-dire?
Bah, la théorie, comme souvent en matière de parentalité, je crois que je la connais à peu près. Être à l'écoute des signes de changement brutaux chez nos enfants, des signes de mal-être. Si jamais il ou elle exprime que quelque chose se passe mal à l'école ou dans son club de sport ou ailleurs, dans l'idéal, rester calme ou au pire, faire semblant d'être calme. Se mettre sereinement en contact avec l'institution concernée afin de trouver une solution concertée au problème. Et en attendant, aller tranquillement au boulot le matin sans avoir le ventre retourné à l'idée que votre petit trésor se fait peut-être embêter, humilier, voire torturer toute la journée.
Ça, c'est la théorie.
Et oui, une théorie tout à fait raisonnable que nous tous, parents, devrions nous faire tatouer sur la peau en cas de problème, tel Michael Scofield dans la série Prison Break, qui se fait tatouer un plan de la prison sur le corps afin de s'évader. Car quand la pratique se présente, je peux vous dire que personnellement, tout ce qui touche au raisonnable s'auto-détruit immédiatement. Non, parce que soyons honnêtes, et là je prends le risque de vous montrer une part très sombre de moi-même. Au départ, quand on pense harcèlement, au fond, on est tous persuadés que ça n'arrive qu'aux autres et que nos enfants vont y échapper. Et oui, notre enfant étant le plus mignon, le plus rigolo ou la plus adorable du monde, à nos yeux, personne n'aura idée ni l'envie d'aller l'embêter. Alors que le petit moche ou la petite intello qui sait tout d'à côté, bon, c'est sûr, c'est pas sympa, mais vous sentez bien que la probabilité qu'il lui arrive quelque chose est peut-être un peu plus élevée.
Sauf que, Gonaël, ça n'arrive pas qu'aux autres.
Et non. Et si j'avoue que les miens n'ont à ce jour jamais été victimes de harcèlement au sens propre du terme, ils ont, comme tous les enfants, eu à subir des situations que nous pourrions qualifier de pas cool. Une année, par exemple, c'était une liste noire qu'un petit groupe de peste avait décidé de faire signer à toutes les filles de l'école, excluant entre autres ma fille de toute discussion. Une autre fois, ce fut notre petit bonhomme de 7 ans qui, revenant régulièrement avec des bleus de l'école, finit par lâcher quasi sous la torture qu'à la récré, des grands de CM2 le tapaient et lui faisaient ramasser des cartes dans les plaques d'égout. Et j'avoue qu'à chacune de ces situations, ma première envie était juste d'aller choper le petit con qui avait osé s'en prendre à la chair de ma chair pour l'étouffer avec son goûter. Car oui, il y a quelque chose d'insupportable à voir son enfant souffrir en silence et à ne pas pouvoir assurer sa sécurité et son bien-être. Et on a parfois besoin effectivement d'une petite aide extérieure pour nous sortir de notre ressenti et aller vers une solution vraiment efficace. Alors en cas de harcèlement, je pense que 2 tatouages pense-bêtes ne sont pas de trop. Un premier sur le bras gauche pour se redire que oui, notre rôle de parent est bien toujours d'être un soutien indéfectible pour nos enfants, en étant prêt à tout pour les protéger. Et un second sur le bras droit pour nous rappeler que parfois, demander de l'aide n'est pas déshonorant, et même c'est ce qu'on peut peut-être faire de mieux.
Et un troisième tatouage sur la jambe pour apprendre aux enfants à ne plus être des victimes. Merci Gonaïd Boulet, ma vie de parent est à partager sur l'appli France Inter. Dans quelques instants, nos derniers conseils contre le harcèlement scolaire. En attendant, on écoute M, Grandes Oreilles.
Avec mes grandes oreilles, moi j'entends les abeilles et tous les appareils. La vie fait des merveilles, de Maubeuge à Marseille. Tous y sont mes merveilles, et de la tour Eiffel. J'entends même le soleil, avec mes grandes oreilles. Sommeil, j'ai bien lu tout Corneille. Je dors pas, j'essaye. Pas besoin de réveil.
je surveille les belles rimes en hey, les autres à la corbeille. Tu sais, mes grandes oreilles, elles m'émeuvent, m'égayent, rouges comme les groseilles. Parfois, elles m'effrayent. Je voudrais pas, c'est pareil.
Les grandes oreilles.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
10h53 et ce matin des armes pour lutter contre le harcèlement scolaire. Tessaé, je rappelle que vous publiez Frôler les murs. Au terme de cette émission, qu'avez-vous envie de dire à ceux qui subissent le harcèlement scolaire ?
Déjà, enfin, il y a pas de profil, on cherche pas à être harcelé, etc. Il y a pas de du coup, je suis comme ça, donc c'est que je demande à l'aide, non, pas du tout. Après, évidemment, j'aurais toujours cette notion de dire, allez, parler, ne pas rester seul dans ce problème-là. Après, je sais que c'est dur de se dire, ok, je vais en parler, parce qu'on va se dire justement la personne en face va elle-même agir et du coup, il y aura des représailles, etc. Mais pas forcément, on peut aller en parler juste pour avoir un soutien émotionnel et justement, comme on disait, pourquoi pas trouver une technique pour agir sans être dans la violence en retour. Donc vraiment juste ne pas être seul et ne pas avoir honte de se rendre compte qu'on est dans une situation où on est un peu sous l'emprise de quelqu'un, quoi.
Docteur Philippe Haïm, pouvez-vous résumer les grands principes pour armer ceux qui sont harcelés à l'école?
Ben, j'ai envie, presque en réponse à la chronique qui a été faite, et pour aller dans ce sens-là, de dire que oui, justement, s'armer contre le harcèlement. Alors, pas contre les petites agressions pour lesquelles parfois on peut répondre ou dénoncer, etc. Mais contre le harcèlement, c'est quelque chose qui n'est pas intuitif et qui doit s'apprendre. Oui, c'est vrai, nos enfants sont mignons, mais moi, ce que je dis à mes enfants et ce que je recommande de dire, c'est tu es mignon, tu es magnifique, tu es incroyable. Mais, il y a des gens qui penseront le contraire, il y a des gens qui vont penser que t'es moche et bête et nul, même si c'est pas vrai. Et tu sais quoi? Ils ont le droit. Ils ont le droit de le dire. Il faut apprendre aux enfants à s'en sortir en leur apprenant un truc très important qu'on leur dit pas. On leur dit pas assez. Les gens ont le droit de penser ça de toi. Ils ont le droit. Et ça, c'est dur à dire peut-être en tant que parent, mais c'est un cadeau pour la vie. Parce que si je suis dans l'idée que vous avez le droit de penser ce que vous souhaitez de moi, et je peux vous dire vous avez le droit de penser ça, ça changera pas mon avis, mais c'est OK. Et je peux rester en lien avec vous et sourire, même si vous avez le droit de penser ce que vous voulez de moi. Donc voilà, moi je dis ça à mes enfants. Il y a des gens qui seront pas d'accord avec ce que je pense de toi. Ils ont le droit de le dire. Et des fois, il y a des enfants que j'aide et je leur dis de se répéter ça en allant à l'école. Rappelle-toi un truc. Si jamais ils t'attaquent, si jamais ils te disent un truc, dis-toi. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Et dis-leur, c'est OK, vous avez le droit.
Exemple concret, on dit à un enfant, un ado, t'habiller comme un homo, pour pas dire plus.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on répond?
Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est quoi? C'est les pantalons que tu portes, ils sont trop serrés. Ah, d'accord. Tu crois que les gens qui sont habillés comme ça sont homo? D'accord. OK, c'est ce que tu crois. Si c'est un enfant qui est pas à l'aise, justement, avec son identité, qui a pas fait de coming out, par exemple, ou qui n'est pas homosexuel, d'ailleurs, ou qui le laisse sans avoir... Il n'est pas obligé d'entrer dans le jeu de l'autre. Il peut juste lui dire, tu peux penser ça, tu crois que c'est ça? C'est OK, en fait. Les gens ont le droit de le penser. Et souvent, on arrêtera. Ce qui fait qu'on l'embêtera, c'est plutôt s'il se dit, mais enfin non, c'est pas vrai, arrête, me dis pas ça. Voilà, donc, ils ont le droit.
Docteur Alexandre Hubert, votre conseil, vos conseils?
Moi, ce serait aussi pour répondre à la chronique, c'est-à-dire que je pense que c'est important d'accompagner son enfant, mais pas de faire à la place de l'enfant. Le risque, en fait, en agissant à la place de l'enfant, c'est soit ça marche, et du coup l'enfant se dit « bah moi, j'ai pas réussi, et j'ai besoin d'un tiers pour réussir sur une situation difficile », soit ça marche pas, voire ça empire, et du coup le risque, c'est que du coup l'enfant n'ose plus aller voir l'adulte ou le parent pour lui faire part des difficultés. Donc c'est vraiment important d'essayer d'avoir suffisamment de recul pour accompagner l'enfant et dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que tu penses, essayer de le soutenir lui dans sa démarche et l'aider à construire sa démarche.
Une dernière question, docteur Haïm, que faire en cas de provocation physique? Je parle pas de coups, mais les petites bousculades, les petits...
Oui.
Comment on répond à ça?
Alors,
concrètement,
effectivement, on est dans une zone grise un petit peu, c'est pas de la vraie violence physique, mais alors c'est souvent de la provocation. La plupart des violences physiques de début, les petites poussées, les petites bousculades sont des provocations, mais je pars du principe que dans dans cette modalité-là, c'est les choses les plus agressives, sûrement que l'autre a quelque chose à tort ou à raison à nous reprocher. Donc moi, pour moi, l'idée, c'est plutôt de se retourner vers lui et de mettre les mains en avant et dire, mais est-ce que t'es fâché contre moi? T'es vénère? Il y a un problème?
C'est quoi le problème?
Qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce qu'il y a un truc qui fait que t'as envie de te battre avec moi? Pourquoi tu voudrais te battre avec moi, en fait? Moi, je veux pas me battre avec toi, en fait. Donc, demander à quelqu'un, t'es fâché contre moi? Moi, je pense que c'est une question très importante. Si on nous attaque vraiment, verbalement, fortement, ou même physiquement, dire, mais t'es fâché contre moi? L'autre va sûrement dire, bah oui, je suis fâché contre moi, contre toi, t'as fait ça. Eh bien, je suis désolé. Que ce soit vrai ou pas, d'ailleurs. Et t'as dit ça à toute l'école, t'es allé dire que, je suis désolé que t'aies entendu ça partout. Mais pourquoi, c'est pas toi? Non, c'est pas moi, c'est pas vrai, mais je suis vraiment désolé. Donc, c'est très déstabilisant d'être gentil, c'est très déstabilisant d'être désolé par rapport à quelqu'un qui voudrait juste qu'on réponde en disant « Ouais, viens te battre !»
Et sur les moqueries, sur l'humour, parfois vache, comment on répond ?
Sur l'humour, parfois vache...
Si c'est vraiment drôle, ça, c'est blessant, mais c'est vrai.
En fait, l'humour quelque part, c'est toujours agressif. Comme je vous disais, on se moque des gens qui tombent sur les peaux de banane. Un humoriste sur scène, il se moque gentiment de son public. Dans l'humour, il y a toujours une cible. Il se trouve que ce jour-là, l'humour s'est tombé sur moi. Bon, si c'était une bonne blague, même si elle est sur moi, et que j'en rigole avec l'agresseur, il est plus facile pour lui de s'arrêter que si je lui dis « Mais arrête de te moquer, arrête, t'es méchant !»
Et là, pas hésiter à exagérer.
Alors même grossir le trait, dire
ah ouais tu trouves ah ben ouais mais je
ben oui bah ah ben ta coupe de cheveux elle est catastrophique bah oui mais tu comprends j'ai demandé à mon jardinier il a fait à la tondeuse à gazon c'est pas terrible voilà ah bah tiens décidément t'es pas féminine t'as trop de poils etc bah oui mais j'ai paumé mon rasoir. Il y a rien de plus déstabilisant que ce genre de choses.
Ça a fait rire Tessae, ce que vous avez dit. Je recommande le témoignage de Tessae, Frôler les murs, c'est publié à La Grenade et chez Wagram Livre. Merci d'être venu.
Merci à vous.
Merci docteur Alexandre Hubert, déjouer le stress à l'école. Vous reviendrez pour parler du stress à l'école. Et merci docteur Philippe Haïm. On peut retrouver votre méthode formidable chez Marabout Poche. Aider votre enfant à se sortir du harcèlement scolaire. Merci beaucoup. Demain...
Et sur ma chaîne YouTube, comme si, COMMPSY, j'ai des petites vidéos gratuites sur YouTube sur le harcèlement.
Redites.
Comme si, COMMPSY sur YouTube, et vous trouverez des vidéos de moi. Voilà.
Demain, les bienfaits des épices. Racontez-nous vos épices fétiches, celles qui vous font du bien. Nous recevrons notamment le chef Olivier Rollinger.